Louis de Rouvroy, duc de Saint-Simon, extrait choisi des Mémoires, partie 2. La mort de monsieur, frère du roi. Lui ni madame n'avaient pas mal au bout des doigts que le roi n'y alla dans l'instant, et souvent pour peu que le mal durât. Il y avait 6 semaines que madame avait la fièvre double tierce, à laquelle elle ne pouvait rien faire parce qu'elle se traitait à sa mode allemande et ne faisait pas cas des remèdes ni des médecins. Le roi, qui, outre l'affaire de monsieur le duc de Chartres, était secrètement outré contre elle, comme on le verra bientôt, n'avait point été la voir, quoique monsieur l'en eût pressé dans ses tours légers qu'il faisait sans coucher. Cela a été pris par monsieur qui ignorait le fait particulier de madame au roi pour une marque publique d'une inconsidération extrême, et comme il était glorieux et sensible, il en était piqué au dernier point. D'autres peines d'esprit le tourmentaient encore. Il avait depuis quelque temps un confesseur qui, bien que jésuite, le tenait de plus court qu'il pouvait. C'était un gentilhomme de bon lieu et de Bretagne qui s'appelait le père de Trévoux. Il lui retrancha non seulement d'étranges plaisirs, mais beaucoup de ceux qu'il se croyait permis pour pénitence de sa vie passée. Il lui représentait fort souvent qu'il ne se voulait pas damner pour lui, et que si sa conduite lui paraissait trop dure, il n'aurait nul déplaisir de lui voir prendre un autre confesseur. À cela, il ajoutait qu'il prit bien garde à lui, qu'il était vieux, usé de débauche, gras, court de col, et que, selon toute apparence, il mourrait d'apoplexie, et bientôt. C'était là d'épouvantables paroles pour un prince le plus voluptueux et le plus attaché à la vie qu'on eût vu de longtemps, et qu'il avait toujours passé dans la plus molle oisiveté, et qui était le plus incapable par nature d'aucune application, d'aucune lecture sérieuse, ni de rentrer en lui-même. Il craignait le diable, il se souvenait que son précédent confesseur n'avait pas voulu mourir dans cet emploi, et qu'avant sa mort, il lui avait tenu le même discours. L'impression qu'il lui fit le forcèrent de rentrer un peu en lui-même et de vivre d'une manière qui, depuis quelque temps, pouvait passer pour serrée à son égard. Il faisait à reprise beaucoup de prières, obéissait à son confesseur, lui rendait compte de la conduite qu'il lui avait prescrite sur son jeu, sur ses autres dépenses et sur bien d'autres choses, souffrait avec patience et fréquents entretiens, et il y réfléchissait beaucoup. Il en devint triste, abattu, et parla moins qu'à l'ordinaire, c'est-à-dire encore comme 3 ou 4 femmes, en sorte que tout le monde s'aperçut bientôt de ce grand changement. C'en était bien à la fois que ses peines intérieures et les extérieures du côté du roi pour un homme aussi faible que monsieur et aussi nouveau à se contraindre, à être fâché et à le soutenir. Il était difficile que cela ne fît bientôt une grande révolution dans un corps aussi plein et aussi grand mangeur, non seulement à ses repas, mais presque toute la journée. Le mercredi 8 juin, monsieur vint de Saint-Cloud dîner avec le roi à Marly et, à son ordinaire, entra dans son cabinet lorsque le conseil d'État en sortit. Il trouva le roi chagrin de ceux que monsieur de Chartres donnait exprès à sa fille, ne pouvant se prendre à lui directement. Il était amoureux de mademoiselle de Séry, fille d'honneur de madame, et menait cela tambour battant. Le roi prit son thème là-dessus et fit sèchement des reproches à monsieur de la conduite de son fils. Monsieur, qui, dans la disposition où il était, n'avait pas besoin de ce début pour se fâcher, répondit avec aigreur que les pères qui avaient mené de certaines vies avaient peu de grâce et d'autorité à reprendre leurs enfants. Le roi, qui sentit le poids de la réponse, se rabattit sur la patience de sa fille, et qu'au moins devrait-on éloigner de tels objets de ses yeux. Monsieur, dont la gourmette était rompue, le fit souvenir, d'une manière piquante, des façons qu'il avait eues pour la reine avec ses maîtresses, jusqu'à leur faire des voyages dans son carrosse avec elle. Le roi, outré, renchérit, de sorte qu'ils se mirent tous deux à se parler à pleine tête. À Marly, les 4 grands appartements en bas étaient pareils, et seulement de 3 pièces. La chambre du roi tenait au petit salon, et était pleine de courtisans à ces heures-là pour voir passer le roi sans l'en mettre à table. Et par de ses usages propres aux différents lieux, sans qu'on en puisse dire la cause, la porte du cabinet, qui partout ailleurs était toujours fermée, demeurait en tout temps ouverte à Marly, hors le temps du conseil, et il n'y avait dessus qu'une portière tirée que l'huissier ne faisait que lever pour y laisser entrer. À ce bruit, il entra et dit au roi qu'on l'entendait distinctement de sa chambre, et monsieur aussi, puis ressortit. L'autre cabinet du roi, joignant le premier, ne se fermait ni de porte ni de portière. Il sortait dans l'autre petit salon et il était retranché dans sa largeur pour la chaise percée du roi. les valets intérieurs se tenaient toujours dans le second cabinet, qui avaient entendu d'un bout à l'autre tout le dialogue que je viens de rapporter. L'avis de l'huissier fit baisser le ton, mais n'arrêta pas le reproche, tellement que monsieur, hors de ses gonds, dit au roi qu'en mariant son fils, il lui avait promis monde et merveille, que cependant, il n'en avait pu arracher encore un gouvernement. Qu'il avait passionnément désiré de faire servir son fils pour l'éloigner de ses amourettes, et que son fils l'avait aussi fort souhaité, comme il le savait de reste, et lui en avait demandé la grâce avec instance. Que, puisqu'il ne le voulait pas, il ne s'entêtait point à l'empêcher de s'amuser pour se consoler. Il ajouta qu'il ne voilait que trop la vérité de ce qu'on lui avait prédit, qu'il n'aurait que le déshonneur et la honte de ce mariage, sans en tirer jamais aucun profit. Le roi, de plus en plus outré de colère, lui repartit que la guerre l'obligerait bientôt à faire plusieurs retranchements, et que, puisqu'il se montrait si peu complaisant à ses volontés, il commencerait par ceux de ses pensions, avant que retrancher sur soi-même. Là-dessus, le roi fut averti que sa viande était portée. Ils sortirent un moment après pour se venir mettre à table. Monsieur d'un rouge enflammé, avec les yeux étincelants de colère. Son visage, ainsi allumé, fit dire à quelqu'une des dames qui étaient à table et à quelques courtisans derrière, pour chercher à parler, que monsieur, à le voir, avait grand besoin d'être saigné. On le disait de même à Saint-Cloud, il y avait quelque temps, il en crevait de besoin, il l'avouait lui-même. Le roi l'en avait même pressé plus d'une fois, malgré leur pique. Tancred, de son premier chirurgien, était vieux, saignait mal et l'avait manqué. Il ne voulait pas se faire saigner par lui, et pour ne lui point faire de peine, il eut la bonté de ne vouloir pas être saigné par un autre et d'en mourir. À ses propos de saigner, le roi lui en parla encore et ajouta qu'il ne savait à quoi il tenait qu'il ne le menât dans sa chambre et qu'il ne le fît saigner tout à l'heure. Le dîner se passa à l'ordinaire, et monsieur y mangea extrêmement, comme il faisait à tous ses deux repas, sans parler du chocolat abondant du matin, et de tout ce qu'il avalait de fruits, de pâtisseries, de confitures, et de toutes sortes de friandises toute la journée, dont les tables de ses cabinets et de ses poches étaient toujours remplies. Au sortir de table, le roi seul, monseigneur avec madame la princesse de Conti, monsieur le duc de Bourgogne seul, madame la duchesse de Bourgogne avec beaucoup de dames, allèrent séparément à Saint-Germain voir le roi et la reine d'Angleterre. Monsieur, qui avait amené madame la duchesse de Chartres de Saint-Cloud dîner avec le roi, l'amena aussi à Saint-Germain, d'où il partit pour retourner à Saint-Cloud avec elle lorsque le roi arriva à Saint-Germain. Le roi, après le souper, comme le roi était encore dans son cabinet avec monseigneur et les princesses comme à Versailles, Saint-Pierre arriva de Saint-Cloud qui demanda à parler au roi de la part de monsieur le duc de Chartres. On le fit entrer dans le cabinet où il dit au roi que monsieur avait eu une grande faiblesse en soupant, qu'il avait été saigné, qu'il était mieux, mais qu'on lui avait donné de l'émétique. Le fait était qu'il soupa à son ordinaire avec les dames qui étaient à Saint-Cloud. Vers l'entremets, comme il versait d'un vin de liqueur à madame de Bouillon, on s'aperçut qu'il balbutiait et qu'il montrait quelque chose de la main. Comme il lui arrivait quelquefois de leur parler espagnol, quelques dames lui demandèrent ce qu'il disait, d'autres s'écrièrent, tout cela en un instant, et il tomba en apoplexie sur monsieur le duc de Chartres qui le retint. On l'emporta dans le fond de son appartement, on le secoua, on le promena, on le saigna beaucoup, on lui donna force émétique sans en tirer presque aucun signe de vie. À cette nouvelle, le roi, qui pour de rien accourait chez monsieur, passa chez madame de Maintenon, qu'il fit éveiller. Il fut un quart d'heure avec elle, puis sur le minuit, rentrant chez lui, il commanda ses carrosses tout près et ordonna au marquis de Gèvres d'aller à Saint-Cloud, et si monsieur était plus mal, de venir l'éveiller pour y aller, et se coucha. Outre la situation en laquelle ils se trouvaient ensemble, je pense que le roi soupçonna quelque artifice pour sortir de ce qui s'était passé entre eux, qu'il alla en consulter madame de Maintenon et qu'il aima mieux manquer à toute bienséance que d'hasarder d'en être dupe. Madame de Maintenon n'aimait pas monsieur. Elle le craignait, il lui rendait peu de devoirs et avec toute sa timidité et sa plus que déférence, il lui était échappé des traits sur elle plus d'une fois avec le roi qui marquait son mépris et la honte qu'il avait de l'opinion publique. Elle n'était donc pas pressée de porter le roi à lui rendre et moins encore à lui conseiller de voyager la nuit, de ne point se coucher et d'être témoin d'un aussi triste spectacle et si propre à toucher et à faire rentrer en soi-même et qu'elle espéra que si la chose allait vite, le roi se l'épargnerait ainsi. Un moment après que le roi fut au lit, arriva un page de monsieur. Il dit au roi que monsieur était mieux et qu'il venait demander à monsieur le prince de Conti de l'eau de chafouse qui était excellente pour les apoplexies. Une heure et demie après que le roi fut couché, Longeville arriva de la part de M. le duc de Chartres qui éveilla le roi et qui lui dit que l'émétique ne faisait aucun effet et que monsieur était fort mal. Le roi se leva, partit et trouva le marquis de Gesvres en chemin qu'il allait avertir. Il l'arrêta et lui dit les mêmes nouvelles. On peut juger quelle rumeur et quel désordre cette nuit à Marly et quelle horreur à Saint-Cloud, ce palais des délices. Tout ce qui était à Marly courut comme il put à Saint-Cloud, on s'embarquait avec les plus tôt prêts, et chacun, homme, femme, se jetait et s'entassait dans les carrosses sans choix et sans façon. Monseigneur alla avec madame la duchesse, il fut si frappé par rapport à l'état duquel il ne faisait que sortir, que ce fut tout ce que put faire un écuyer de madame la duchesse qui se trouva là, de le traîner et de le porter presque, et tout tremblant, dans le carrosse. Le roi arriva à Saint-Cloud avant 3 heures du matin. Monsieur n'avait pas eu un moment de connaissance depuis qu'il s'était trouvé mal. Il n'en eut qu'un rayon d'un instant, tandis que sur le matin, le père du Trévoux était allé dire la messe, et ce rayon même ne revint plus. Les spectacles les plus horribles ont souvent des instants de contraste ridicule. Le père de Trévoux revint et criait à monsieur « Monsieur, ne connaissez-vous point votre confesseur? Ne connaissez-vous pas le bon petit père du Trévoux qui vous parle ?» et qui fit rire assez indécemment les moins affligés. Le roi le parut beaucoup. Naturellement, il pleurait aisément, il était donc tout en larmes. Il n'avait jamais eu lieu que d'aimer monsieur tendrement, quoique mal ensemble depuis 2 mois, ces tristes moments rappellent toute la tendresse. Peut-être se reprochait-il d'avoir précipité sa mort par la scène du matin. Enfin, il était son cadet de 2 ans, et c'était toute sa vie aussi bien portée que lui, et mieux. Le roi entendit la messe à Saint-Cloud, et sur les 8 heures du matin, monsieur étant sans aucune espérance, madame de Maintenon et madame la duchesse de Bourgogne l'engagèrent de ne pas y demeurer davantage, et revinrent avec lui dans son carrosse. Comme il allait partir et qu'il faisait quelques amitiés à M. de Chartres en pleurant fort tous deux, ce jeune prince sut profiter du moment. « Eh, sire, que deviendrai-je ? » lui dit-il en lui embrassant les cuisses. « Je perds monsieur et je sais que vous ne m'aimez point. » Le roi, surpris et fort touché, l'embrassa et lui dit tout ce qu'il put de tendre. En arrivant à Marly, il entra avec Mme la duchesse de Bourgogne chez Mme de Maintenon. 3 heures après, M. Fagon, à qui le roi avait ordonné de ne point quitter monsieur, qu'il ne fût mort ou mieux, ce qui ne pouvait arriver que par miracle, lui dit dès qu'il l'aperçut, « Eh bien, monsieur Fagon, mon frère est mort ?»« Oui, sire, » répondit-il, « nul remède n'a pu agir. » Le roi pleura beaucoup. On le pressa de manger un morceau chez madame de Maintenon, mais il voulut dîner à l'ordinaire avec les dames, et les larmes lui coulèrent souvent pendant le repas, qui fut court, après lequel il se renferma chez madame de Maintenon jusqu'à 7 heures, qu'il alla faire un tour dans ses jardins. Il travailla avec Chamillard, puis avec Pontchartrain, pour le cérémonial de la mort de monsieur, et donna là-dessus des ordres à Desgranges, maître des cérémonies, Dreux, grand maître, étant à l'armée d'Italie. Il soupa 1 heure plus tôt qu'à l'ordinaire et se coucha fort tôt après. Il avait eu sur les 5 heures la visite du roi et de la reine d'Angleterre, qui ne dura qu'un moment. Au départ du roi, la foule s'écoula de Saint-Cloud peu à peu, de sorte que monsieur, mourant, jeté sur un lit de repos dans son cabinet, demeura exposé aux marmitons et aux bas-officiers, qui la plupart par affection ou par intérêt étaient fort affligés. Les premiers officiers et autres qui perdaient charge et pension faisaient retentir l'air de leurs cris, tandis que toutes ces femmes qui étaient à Saint-Cloud et qui perdaient leur considération et tout leur amusement couraient çà et là, criant et chevelées comme des bacchantes. La duchesse de La Ferté, de la seconde fille de ce qu'on a vu plus haut dans l'étrange mariage, entra dans ce cabinet où, considérant attentivement ce pauvre prince qui palpitait encore, « Pardi !» s'écria-t-elle dans la profondeur de ses réflexions, « voilà une fille bien mariée !» « Voilà qui est bien important aujourd'hui, » lui répondit Châtillon, qui perdait tout lui-même, « que votre fille soit bien ou mal mariée. » Madame était cependant dans son cabinet, qui n'avait jamais eu ni grande affection ni grande estime pour monsieur, mais qui sentait sa perte et sa chute, et qui s'écriait dans sa douleur de toute sa force, « Point de couvent, qu'on ne me parle point de couvent, je ne veux point de couvent. » La bonne princesse n'avait pas perdu le jugement. Elle savait que par son contrat de mariage, elle devait opter, devenant veuve, un couvent ou l'habitation du château de Montargis, soit qu'elle crût sortir plus aisément l'un de l'autre, soit que, sentant combien elle avait à craindre du roi, quoiqu'elle ne sût pas encore tout, et qu'il lui eût fait les amitiés ordinaires en pareille occasion, elle eut encore plus peur du couvent. Monsieur étant expiré, Elle monta en carrosse avec ses dames et s'en alla à Versailles, suivie de monsieur et madame la duchesse de Chartres et de toutes les personnes qui étaient avec eux. Le lendemain matin, vendredi, monsieur le duc de Chartres vint chez le roi, qui était encore au lit, et qui lui parla avec beaucoup d'amitié. Il lui dit qu'il fallait désormais qu'il le regardât comme son père, qu'il aurait soin de sa grandeur et de ses intérêts, qu'il oubliait tous les petits sujets de chagrin qu'il avait eus contre lui, qu'il espérait que de son côté il les oublierait aussi, qu'il le priait que les avances d'amitié qu'il lui faisait servissent à l'attacher plus à lui et à lui redonner son cœur comme il lui redonnait le sien. On peut juger si M. de Chartres sut bien répondre. Après un si affreux spectacle, tant de larmes et tant de tendresse, personne ne douta que les 3 jours qui restaient du voyage de Marly ne fussent extrêmement tristes. Lorsque, ce même lendemain de la mort de monsieur, les dames du palais, entrant chez madame de Maintenon, où était le roi avec elle, et madame la duchesse de Bourgogne, sur le midi, elles l'entendirent, de la pièce où elle se tenait, joignant la sienne, chantant des prologues d'opéra. Un peu après, le roi, voyant madame la duchesse de Bourgogne fort triste en un coin de la chambre, demanda avec surprise à madame de Maintenon ce qu'elle avait pour être si mélancolique, et se mit à la réveiller pour y jouer avec elle à quelques dames du palais qu'ils firent entrer pour les amuser tous deux. Ce ne fut pas tout que ce particulier. Au sortir du dîner ordinaire, c'est-à-dire un peu après 2 heures et 26 heures après la mort de monsieur, monsieur le duc de Bourgogne demanda au duc de Brelan s'il voulait jouer au Brelan. « Au Brelan ! » s'exclia Montfort dans un étonnement extrême. « Vous n'y songez pas, monsieur est encore tout chaud. »« Pardonnez-moi, répondit le prince, j'y songe fort bien, mais le roi ne veut pas qu'on s'ennuie à Marly, et il m'a ordonné de faire jouer tout le monde, et de peur que personne ne l'osa faire le premier, d'en donner moi l'exemple. » De sorte qu'ils se mirent à faire un Brelan, et que le salon fut bientôt rempli des tables de jeu. Telle fut la fiction du roi, telle celle de madame de Maintenon. Elle sentait la perte de monsieur comme une délivrance, elle avait peine à retenir sa joie. Elle en eut bien davantage à paraître affligée. Elle voyait déjà le roi tout consolé. Rien ne lui seyait mieux que de chercher à le dissimper, et ne lui était plus commode que de hâter la vie ordinaire pour qu'il ne fût plus question de monsieur ni d'affliction. Pour les bienséances, elle ne s'en peina point. La chose toutefois ne laissa pas d'être scandaleuse. Et tout bas, d'être fort trouvée telle, monseigneur semblait aimer monsieur, qui lui donnait des bals et des amusements avec toutes sortes d'attentions et de complaisance. Dès le lendemain de sa mort, il alla court le loup, et au retour, trouva le salon plein de joueurs, tellement qu'il ne se contraignit pas plus que les autres. Monsieur le duc de Bourgogne et monsieur le duc de Berry ne voyaient monsieur qu'en représentation et ne pouvaient être fort sensibles à sa perte. Madame la duchesse de Bourgogne le fut extrêmement. C'était son grand-père. Elle aimait tendrement madame sa mère, qui aimait fort monsieur, et monsieur marquait toutes sortes de soins d'amitié et d'attention à madame la duchesse de Bourgogne et l'amusait de toutes sortes de divertissements. Quoiqu'elle n'aimât pas grand-chose, elle aimait monsieur et elle souffrit fort de contraindre sa douleur, qui dura assez longtemps dans son particulier. On a vu ci-dessous en 2 mots quelle fut la douleur de madame. Pour monsieur de Chartres, la sienne fut extrême. Le père et le fils s'aimaient tendrement. Monsieur était doux, le meilleur homme du monde, qui n'avait jamais contraint ni retenu monsieur son fils. Avec le cœur, l'esprit était aussi fort touché. Outre la grande parure, dont lui était un père frère du roi, il lui était une barrière derrière laquelle il se mettait à couvert du roi, sous la coupe duquel il retombait en plein. Sa grandeur, sa considération, l'aisance de sa maison et de sa vie, en allaient dépendre 100 000 lieues. L'assiduité, les bienséances, une certaine règle, et puis que tout cela pour lui une conduite toute différente avec madame sa femme, allait devenir la mesure de tout ce qu'il pouvait attendre du roi. Madame la duchesse de Chartres, quoique bien traitée de monsieur, fut ravie d'être délivrée d'une barrière entre le roi et elle, qui laissait à monsieur son mari toute liberté d'en user avec elle comme il lui plaisait, et des devoirs qu'il attirait plus souvent qu'elle ne voulait de la cour pour suivre monsieur à Paris ou à Saint-Cloud, où elle se trouvait tout empruntée comme en pays inconnu avec tout visage qu'elle ne voyait jamais que là, qui étaient tous pour la plupart fort sur le pied gauche avec elle et sous les mépris et les humeurs de madame, qui ne les lui épargnait pas. Elle compta donc ne plus quitter la cour, n'avoir plus affaire à la cour de monsieur, et que madame et monsieur le duc de Chartres seraient obligés à l'avenir d'avoir pour elle des manières et des égards qu'elle n'avait pas encore éprouvés. Le gros de la cour perdit en monsieur. C'était lui qui y jetait les amusements, l'âme, les plaisirs, et quand il la quittait, tout y semblait sans vie et sans action. À son entêtement prêt pour les princes, il aimait l'ordre des rangs, des préférences, des distinctions. Il les faisait garder tant qu'il pouvait, et il leur donnait l'exemple. Il aimait le grand monde, il avait une affabilité et une honnêteté qui lui en attiraient en foule. Et la différence qu'il savait faire, et qu'il ne manquait jamais de faire, des gens suivant ce qu'ils étaient, y contribuait beaucoup. À sa réception, à son attention plus ou moins grande ou négligée, à ses propos, il faisait continuellement toute la différence qui flattait de la naissance et de la dignité, de l'âge et du mérite et de l'état des gens. Et cela avec une dignité naturellement en lui et une facilité de tous les moments qu'il s'était formé. Sa familiarité obligeait, et il se conservait sa grandeur naturelle sans repousser, mais aussi sans tenter les étourdis d'en abuser. Il visitait et envoyait où il devait faire, et il donnait chez lui une entière liberté, sans que le respect et le plus grand air de cour en souffrît aucune diminution. Il avait appris et bien retenu de la reine sa mère l'art de la tenir. Aussi la voulait-il pleine, et y réussissait par ce maintien. La foule était toujours au palais royal. À Saint-Cloud, où toute sa nombreuse maison se rassemblait, il avait beaucoup de dames qui, à la vérité, n'auraient guère été reçues ailleurs, mais beaucoup de celles-là du haut parage et force joueurs. Les plaisirs de toutes sortes de jeux, de la beauté singulière du lieu, que 1000 calèches rendaient aisées aux plus paresseuses pour les promenades, des musiques, de la bonne chère, en faisaient une maison de délices avec beaucoup de grandeur et de magnificence. Et tout cela sans aucun secours de madame, qui dînait et soupait avec les dames, et monsieur se promenait quelquefois en calèche avec quelques-unes, boudait souvent la compagnie, s'en faisait craindre par son humeur dure et farouche, quelquefois par ses propos, et passait toute la journée dans un cabinet qu'elle s'était choisi, où les fenêtres étaient à peine de 10 pieds de terre, à considérer les portraits des palatins et d'autres princes allemands dont elle l'avait tapissé, et à y écrire des volumes de lettres tous les jours de sa vie et de sa main, dont elle faisait elle-même les copies qu'elle gardait. Monsieur n'avait pu l'employer à une vue plus humaine, et la laissait faire, et vivait honnêtement avec elle sans se soucier de sa personne, avec qui il n'était presque point en particulier. Il recevait à Saint-Cloud beaucoup de gens qui, de Paris et de Versailles, lui allaient faire leur cour les après-dîners. Princes de sang, grands seigneurs, ministres, hommes et femmes n'y manquaient point de temps en temps. Encore ne fallait-il pas que ce fût en passant, c'est-à-dire en allant de Paris à Versailles ou de Versailles à Paris. Il le demandait presque toujours et montrait si bien qu'il ne comptait pas ses visites en passant que peu de gens l'avouaient. Du reste, monsieur, qui avait beaucoup de valeur, avait gagné la bataille de Cassel, et qui en avait toujours montré une force naturelle en tous les sièges où il s'était trouvé, n'avait d'ailleurs que les mauvaises qualités des femmes. Avec plus de monde que d'esprit et nulle lecture, quoique avec une connaissance étendue et juste des maisons, des naissances et des alliances, il n'était capable de rien. Personne de si mou, de corps et d'esprit, de plus faible, de plus timide, de plus trompé, de plus gouverné, ni de plus méprisé par ses favoris, et très souvent de plus malmené par eux. Tracassier et incapable de garder aucun secret, soupçonneux, défiant, semant des noises dans sa cour pour brouiller, pour savoir, aussi souvent pour s'amuser, et redisant des uns aux autres. Avec autant de défauts destitués de toute vertu, un goût abominable que ses dons et les fortunes qu'il fit à ceux qu'il avait pris en fantaisie avaient rendu public avec le plus grand scandale, et qui n'avait point de bornes pour le nombre ni pour le temps. Ceux-là avaient tout de lui, le traitaient souvent avec beaucoup d'insolence, et lui donnaient souvent aussi de fâcheuses occupations pour arrêter les brouilleries de jalouseries horribles. Et tous ces gens-là, ayant leurs partisans, rendaient cette petite cour très orageuse, sans compter les querelles de cette troupe de femmes décidées de la cour de monsieur, la plupart fort méchantes et presque toutes plus que méchantes, dont monsieur se divertissait et entrait dans toutes ces misères-là. Le chevalier de Lorraine et Châtillon y avaient fait une grande fortune par leur figure, dont monsieur s'était entêté plus que de pas un autre. Le dernier, qui n'avait ni pain, ni sens, ni esprit, s'y releva et acquit du bien. L'autre prit la chose en guisard, qui ne rougit de rien pourvu qu'il arrive, et mena monsieur le bâton haut toute sa vie, fut comblé d'argent et de bénéfices, fit pour sa maison ce qu'il voulut, demeura toujours publiquement le maître chez monsieur. Et comme il avait, avec la hauteur des Guises, leur art et leur esprit, il sut se mettre entre le roi et monsieur, et se faire ménager, pour ne pas dire craindre, de l'un et de l'autre, et jouir d'une considération, d'une distinction et d'un crédit, presque aussi marqué de la part du roi que de celle de monsieur. Aussi fut-il bien touché, moins de sa perte que de celle de cet instrument qu'il avait su si grandement faire valoir pour lui. Outre les bénéfices que monsieur lui avait donnés, l'argent manuel qu'il en tirait tant qu'il voulait, les pots de vin qu'il taxait et qu'il prenait avec autorité sur tous les marchés qui se faisaient chez monsieur, il en avait une pension de 10 000 écus et le plus beau logement du palais royal et de Saint-Cloud. Les logements, il les garda à la prière de monsieur le duc de Chartres, mais il ne voulut pas accepter la continuation de la pension comme par grandeur elle lui fut offerte. Quoiqu'il fût difficile d'être plus timide et plus soumis qu'était monsieur avec le roi, jusqu'à flatter ses ministres et auparavant ses maîtresses, il ne laissait pas de conserver, avec un grand air de respect, l'air de frère et des façons libres et dégagées. En particulier, il se licenciait bien davantage. Il se mettait toujours dans un fauteuil et n'attendait pas que le roi lui dît de s'asseoir. Au cabinet, après le souper du roi, il n'y avait aucun prince assis que lui, non pas même monseigneur. Mais pour le service et pour s'approcher du roi ou le quitter, aucun particulier ne le faisait avec plus de respect, et il mettait naturellement de la grâce et de la dignité en toutes ses actions les plus ordinaires. Il ne laissait pas de faire au roi, par-ci, par-là, des pointes, mais cela ne durait pas, et comme son jeu, Saint-Cloud et ses favoris lui coûtaient beaucoup, avec de l'argent que le roi lui donnait, il n'y paraissait plus. Jamais pourtant il n'a pu se ployer à Madame de Maintenon, ni se passer d'en lâcher de temps en temps quelques bagatelles au roi et quelques brocards au monde. Ce n'était pas sa faveur qu'il blessait, mais d'imaginer que la Scarron était devenue sa belle-sœur, cette pensée lui était insupportable. Il était extrêmement glorieux, mais sans hauteur, fort sensible et fort attaché à tout ce qui lui était dû. Les princes de sang avaient fort haussé dans leur manière à l'appui de tout ce qui avait été accordé aux bâtards. Mais pas trop monsieur le prince de Conti, qui se contentait de profiter sans entreprendre. Mais monsieur le prince et monsieur le duc, qui de proche en proche évita les occasions de présenter le service à monsieur, ce qui n'était pas difficile, et qui eut la discrétion de se vanter qu'il ne le servirait point. Le monde est plein de gens qui aiment à faire leur cour aux dépens des autres. Monsieur en fut bientôt averti. Il s'en plaignit au roi, fort en colère, qui lui répondit que cela ne valait pas la peine de se fâcher, mais bien celle de trouver occasion de s'en faire servir, et s'il le refusait, de lui faire un affront. Monsieur, assuré du roi, épia l'occasion. Un matin, qu'il se levait à Marly, où il logeait dans un des 4 appartements bas, il vit par sa fenêtre monsieur le duc dans le jardin. Il l'ouvre vite et l'appelle. Monsieur le duc vient, monsieur se recule, lui demande où il va, l'oblige, toujours reculant, d'entrer et d'avancer pour lui répondre, et de propos en propos, dont l'un n'attendait pas l'autre, tire sa robe de chambre. À l'instant, le premier valet de chambre présente la chemise à monsieur le duc, à qui le premier gentilhomme de la chambre de monsieur fit signe de le faire. Monsieur, cependant, défaisant la sienne. Et monsieur le duc, pris ainsi au trébuchet, n'osa faire la moindre difficulté de la donner à monsieur. Dès que monsieur l'eut reçue, il se mit à rire et dit « Adieu, mon cousin, allez-vous-en, je ne veux pas vous retarder davantage. » Monsieur le duc sentit toute la malice et s'en alla fort fâché, et le fut après encore davantage par les propos de hauteur que monsieur en tint. C'était un petit homme ventru, monté sur des échasses tant ses souliers étaient hauts, toujours paré comme une femme, plein de bagues, de bracelets, de pierreries surtout, avec une longue perruque tout étalée en devant, noire et poudrée, et des rubans partout où il en pouvait mettre, plein de toutes sortes de parfums, et toutes ces choses, la propreté même. On l'accusait de mettre imperceptiblement du rouge. Le nez fort long, la bouche et les yeux beaux, le visage plein mais fort long. Tous ses portraits lui ressemblent. J'étais piqué à le voir qu'il fit souvenir qu'il était fils de Louis XIII à ceux de ce grand prince duquel, à la valeur près, il était si complètement dissemblable. Le samedi 11 juin, la cour retourna à Versailles où, en arrivant, le roi alla voir madame, monsieur et madame de Chartres, chacun dans leur appartement. Elle, fort en peine de la situation où elle se trouvait avec le roi, dans une occasion où il y allait du tout pour elle, et avait engagé la duchesse de Ventadour de voir madame de Maintenon. Elle le fit, madame de Maintenon ne s'expliqua qu'en général, et dit seulement qu'elle irait chez madame au sortir de son dîner, et voulut que madame de Ventadour se trouvât chez madame et fût entière pendant sa visite. C'était le dimanche, le lendemain du retour de Marly. Après les premiers compliments, ce qui était la sortie, excepté madame de Ventadour. Alors Madame fit asseoir Madame de Maintenon, et il fallait pour cela qu'elle en sentît tout le besoin. Elle entra en matière sur l'indifférence avec laquelle le roi l'avait traitée pendant toute sa maladie, et Madame de Maintenon la laissa dire tout ce qu'elle voulut, puis lui répondit que le roi lui avait ordonné de lui dire que leur perte commune effaçait tout dans son cœur, pourvu que dans la suite il y eût lieu d'être plus content d'elle qu'il n'avait eu depuis longtemps, non seulement sur ce qui regardait ce qui s'était passé à l'égard de Monsieur le duc de Chartres, mais sur d'autres choses encore plus intéressantes dont il n'avait pas voulu parler et qui étaient la vraie cause de l'indifférence qu'il avait voulu lui témoigner pendant qu'elle avait été malade. À ce mot, Madame, qui se croyait bien assurée, se récrie, proteste qu'excepté le fait de son fils, elle n'a jamais rien dit ni fait qui pût déplaire, et enfile des plaintes et des justifications. Comme elle y insistait le plus, Madame de Maintenon tire d'une lettre de sa poche et la lui montre en lui demandant si elle en connaissait l'écriture. C'était une lettre de sa main à sa tante la duchesse d'Hanovre, à qui elle écrivait tous les ordinaires, où, après des nouvelles de cour, elle lui disait en propres termes qu'on ne savait plus que dire du commerce du roi et de Madame de Maintenon, si c'était mariage ou concubinage, et de la tomber sur les affaires du dehors et sur celles du dedans, et s'étendait sur la misère du royaume, qu'elle disait ne s'en pouvoir relever. La poste l'avait ouverte, comme elle les ouvrait, et les ouvre encore presque toutes, et l'avait trouvée trop forte pour se contenter, à l'ordinaire, d'en donner un extrait, et l'avait envoyée au roi en original. On peut penser si, à cet aspect et à cette lecture, Madame pensa mourir sur l'heure. La voilà à pleurer, et Madame de Maintenon a lui représenté, modestement, l'énormité de toutes les parties de cette lettre et en pays étranger. Enfin, Madame de Ventadour a verbiagé pour laisser à Madame le temps de respirer et de se remettre assez pour dire quelque chose. Sa meilleure excuse fut l'aveu de ce qu'elle ne pouvait nier, des pardons, des repentirs, des prières, des promesses. Quand tout cela fut épuisé, Madame de Maintenon la supplia de trouver bon qu'après s'être acquittée de la commission que le roi lui avait donnée, elle pût aussi lui dire un mot d'elle-même et lui faire des plaintes de ce que, après l'honneur qu'elle lui avait fait autrefois de vouloir bien désirer son amitié et de lui jurer la sienne, elle avait entièrement changé depuis plusieurs années. Madame crut avoir beau champ, elle répondit qu'elle était d'autant plus aise de cet éclaircissement que c'était à elle de se plaindre du changement de Madame de Maintenon, qui tout d'un coup l'avait laissée et abandonnée, et forcée de l'abandonner à la fin aussi, après avoir longtemps essayé de la faire vivre avec elle, comme elles avaient vécu auparavant. À cette seconde reprise, Madame de Maintenon se donna le plaisir de la laisser enfiler comme à l'autre les plaintes, et de plus les regrets et les reproches. Après quoi, elle avoua à Madame qu'il était vrai que c'était elle qui, la première, s'était retirée d'elle et qui n'avait osé s'en approcher, que ses raisons étaient telles qu'elle n'avait pu moins que d'avoir cette conduite, et par ce propos fit redoubler les plaintes de Madame et son empressement de savoir quelles pouvaient être ses raisons. Alors Madame de Maintenon lui dit que c'était un secret, qui jusqu'alors n'était jamais sorti de sa bouche, quoiqu'elle en fût en liberté depuis 10 ans qu'était morte celle qui le lui avait confié sur sa parole de n'en parler à personne. Et de là raconte à Madame 1000 choses plus offensantes les unes que les autres qu'elle avait dites d'elle à Madame la Dauphine lorsqu'elle était mal avec cette dernière, qui dans le raccommodement le lui avait redit de mot à mot. À ce second coup de foudre, Madame demeura comme une statue. Il y eut quelques instants de silence. Madame de Ventadour fit son même personnage pour laisser reprendre les esprits à Madame, qui ne sut faire que comme l'autre fois, c'est-à-dire qu'elle pleura, cria, et pour fin demanda pardon, avoua, puis repentir et supplication. Madame de Maintenon triompha froidement d'elle assez longtemps, la laissant s'engouer de parler, de pleurer et lui prendre les mains. C'était une terrible humiliation pour une si rogue et fière Allemande. À la fin, Madame de Maintenon se laissa toucher, comme elle l'avait bien résolu, après avoir pris toute sa vengeance. Elles s'embrassèrent, elles se promirent oubli parfait et amitié nouvelle. Madame de Ventadour se mit en pleurer de joie, et le sceau de la réconciliation fut la promesse de celle du roi, qu'il ne lui dirait pas un mot de ces deux matières qu'elle venait de traiter, ce qui, plus que tout, soulagea Madame. Tout se sait enfin dans les cours, et si je me suis peut-être un peu étendu sur ces anecdotes, c'est que je les ai sues d'original et qu'elles m'ont paru très curieuses. Mésaventures de l'abbesse de la Joie et de son père, duc de Saint-Aignan. Ségur avait été beau en sa jeunesse et parfaitement bien fait, comme on le voyait encore, doux, poli et galant. Il était mousquetaire noir et cette compagnie avait toujours son quartier à Nemours pendant que la cour était à Fontainebleau. Ségur jouait très bien du luth, il s'ennuyait à Nemours. Il fit connaissance avec l'abbesse de la joie qui est tout contre et la charma si bien par les oreilles et par les yeux qu'il lui fit un enfant. Au 9e mois de la grossesse, madame fut bien en peine que de venir et ses religieuses la croyaient fort malade. Pour son malheur, elle ne prit pas assez tôt ses mesures ou se trompa de justesse dans son calcul. Elle partit, dit-elle, pour les eaux, et comme les départs sont toujours difficiles, ce ne put être que tard, et n'alla coucher qu'à Fontainebleau, dans un mauvais cabaret plein de monde, parce que la cour y était alors. Cette coucher lui fut perfide, le mal d'enfant la prit la nuit, et elle accoucha. Tout ce qui était dans l'hôtellerie entendit ses cris. On accourut à son secours, beaucoup plus qu'elle n'aurait voulu, chirurgien, sage-femme. En un mot, elle en but le calice en entier, et le lendemain, ce fut la nouvelle. Les gens du duc de Saint-Aignan la lui contèrent en l'habillant, et il en trouva l'aventure si plaisante qu'il en fit une gorge chaude au lever du roi, qui était fort gaillard en ce temps-là, et qui rit beaucoup de madame l'abbesse et de son poupon, que pour se mieux cacher, elle était venue pondre en pleine hôtellerie au milieu de la cour, et ce qu'on ne savait pas, parce qu'on ignorait d'où elle était abbesse, à 4 lieues de son abbaye, ce qui fut bientôt mis au net. Monsieur de Saint-Aignan, revenu chez lui, y trouva la mine de ses gens fort allongée. Ils se faisaient signe les uns aux autres, personne ne disait mot. À la fin, il s'en aperçut et leur demanda à qui ils en avaient. L'embarras redoubla, et enfin Monsieur de Saint-Aignan voulut savoir de quoi il s'agissait. Un valet de chambre se hasarda de lui dire que cette abbesse, dont on lui avait fait un si bon compte, était sa fille, et que depuis qu'il était allé chez le roi, elle avait envoyé chez lui au secours pour l'attirer du lieu où elle était. Qui fut bien penaud, ce fut le duc qui venait d'apprendre cette histoire au roi et à toute la cour, et qui, après en avoir bien fait rire tout le monde, en allait devenir lui-même le divertissement. Il soutint l'affaire comme il put, fit emporter la baisse et son bagage, et comme le scandale en était public, il donna sa démission et a vécu plus de 40 ans depuis, caché dans un autre couvent. Aussi n'ai-je presque jamais vu Ségur chez M. de Beauvilliers, qui pourtant lui faisait politesse comme à tout le monde. Les Saint-Hérèmes. Le bonhomme Saint-Hérèmes mourut à plus de 80 ans chez lui en Auvergne, où il s'était avisé d'aller. Il avait été grand louvetier et avait vendu à Heudicourt pour le récrépir lorsque le maréchal d'Albret lui fit en 1666 épouser sa belle et chère nièce de Ponce et il en avait acheté la capitainerie, etc. de Fontainebleau. Tout le monde l'aimait et M. de La Rochefoucauld reprocha au roi en 1688 de ne l'avoir pas fait chevalier de l'ordre. Il était Montmorin et le roi le croyait un pied plat parce qu'il était beau-frère de Courtin, conseiller d'État, avec qui le roi l'avait confondu. Ils avaient épousé les deux sœurs. Le roi, quoique avisé sur sa naissance, ne l'a pourtant point fait chevalier de l'ordre, quoiqu'il en ait fait plusieurs depuis. Cette madame de Saint-Hérèmes était la créature du monde la plus étrange dans sa figure et la plus singulière dans ses façons. Elle se grilla une fois une cuisse au milieu de la rivière de Seine, auprès de Fontainebleau, où elle se baignait. Elle trouva l'eau trop froide, elle voulut la chauffer, et pour cela, elle en fit bouillir quantité au bord de l'eau, qu'elle fit verser tout auprès d'elle et au-dessus, tellement qu'elle en fut brûlée à en garder le lit, avant que cette eau pût être refroidie dans celle de la rivière. Quand il tonnait, elle se fourrait à quatre pattes sous un lit de repos, puis faisait coucher tous ses gens dessus, l'un sur l'autre en pile, afin que, si le tonnerre tombait, il eût fait son effet sur eux avant de pénétrer jusqu'à elle. Elle s'était ruinée, elle et son mari, qui étaient riches, par imbécilité. Et il n'est pas croyable ce qu'elle dépensait à se faire dire des évangiles sur la tête. La meilleure aventure entre mille fut celle d'un fou, qui, une après-dînée, que tous ses gens dînaient, entra chez elle à la place royale, et la trouvant seule dans sa chambre, la serra de fort près. La bonne femme, hideuse à 18 ans, mais qui était veuve et en avait plus de 80, se mit à crier tant qu'elle put. Les gens, à la fin, l'entendirent et la trouvèrent, ses côtes troussées entre les mains de cet enragé, qui se débattait tant qu'elle pouvait. Ils l'arrêtèrent et le mirent en justice, pour qui ce fut une bonne gorge chaude, et tout le monde, qui le sut, s'en divertit beaucoup. Le fou fut trouvé l'être, et il n'en fut autre chose que le ridicule d'avoir donné cette histoire au public. Son fils avait la survivance de Fontainebleau. Le roi leur donna quelques pensions, car ils étaient fort mal dans leurs affaires. Ce fils était un très galant homme et fort de mes amis. Le maréchal de Villars. Cet enfant de la fortune va si continuellement faire désormais un personnage si considérable qu'il est à propos de le faire connaître. J'ai parlé de sa naissance à propos de son père. On y a vu que ce n'était pas un fond sur lequel il put bâtir. Le bonheur, et un bonheur inouï, y suppléa pendant toute sa longue vie. C'était un assez grand homme, brun, bien fait, devenu gros en vieillissant, sans être appesanti, avec une physionomie vive, ouverte, sortante, et véritablement un peu folle, à quoi la contenance et les gestes répondaient. Une ambition démesurée, qui ne s'arrêtait pas pour les moyens, une grande opinion de soi, qui n'y avait jamais guère communiquée au roi, une galanterie dont l'écorce était toujours romanesque, grande bassesse et grande souplesse auprès de qui le pouvait servir, étant lui-même incapable d'aimer, ni de servir personne, ni d'aucune sorte de reconnaissance. Une valeur brillante, une grande activité, une audace sans pareille et une effronterie qui soutenait tout et ne s'arrêtait pour rien, avec une fanfaronnerie poussée aux derniers excès et qui ne le quittait jamais. Assez d'esprit pour imposer au sot par sa propre confiance, de la facilité à parler, mais avec une abondance et une continuité d'autant plus rebutante que c'était toujours avec l'art de revenir à soi, de se vanter, de se louer, d'avoir tout prévu, tout conseillé, tout fait, sans jamais, tant qu'il put, en laisser de part à personne. Sous une magnificence de Gascon, une avarice extrême, une avidité de harpie qui lui a valu des monts d'or pillés à la guerre et, quand il vint à la tête des armées, pillés haut la main, et en faisant lui-même des plaisanteries, sans pudeur d'y employer des détachements exprès et de diriger à cette fin les mouvements de son armée. Incapable d'aucun détail de subsistance, de convoi, de fourrage, de marge, qu'il abandonnait à qui de ses officiers généraux en voulait prendre la peine, mais s'en donnant toujours l'honneur. Son adresse consistait à faire valoir les moindres choses et tous les hasards. Les compliments suppliaient chez lui à tout, mais il n'en fallait rien attendre de plus solide. Lui-même n'était rien moins. Toujours occupé de futilité, quand il n'en était pas arraché par la nécessité imminente des affaires, c'était un répertoire de romans, de comédies et d'opéras dont il citait à tout propos des bribes, même aux conférences les plus sérieuses. Il ne bougea tant qu'il put des spectacles, avec une indécence des filles de ces lieux et du commerce de leur vie et de leurs galants qu'il poussa publiquement jusqu'à sa dernière vieillesse, déshonorant publiquement par ses honteux propos. Son ignorance et, s'il faut dire le mot, son ineptie en affaires était inconcevable dans un homme qui y fut si grandement et si longtemps employé. Il s'égarait et ne se retrouvait plus. La conception manquait, il y disait tout le contraire de ce qu'on voyait et de ce qu'il voulait dire. J'en suis demeuré souvent dans le plus profond étonnement et obligé à le remettre et à parler pour lui plusieurs fois depuis que je fus avec lui dans ses affaires pendant la régence. Aucune, tant qu'il lui était possible, ne le détournait du jeu qu'il aimait parce qu'il y avait toujours été heureux et qu'il y avait gagné gros, ni des spectacles. Il n'était occupé que de se maintenir en autorité et laisser faire tout ce qu'il aurait dû faire ou voir lui-même. Un tel homme n'est guère aimable, aussi n'eut-il jamais ni ami ni créature, et jamais homme ne séjourna dans de si grands emplois avec moins de considération. Le nom qu'un infatigable bonheur lui a acquis pour des temps à venir m'a souvent dégoûté de l'histoire, et j'ai trouvé une infinité de gens dans cette même réflexion. Les siens ont eu l'imprudence de laisser paraître fort tôt après lui des mémoires qu'on ne peut méconnaître de lui. Il n'y a qu'à voir sa lettre au roi sur sa bataille de Friedlingen. Un récit confus, embarrassé, mal écrit, sans exactitude, sans précision, expressément confus, voit le temps qu'il peut le désordre qui pense à perdre son infanterie, son ignorance de ce que fit sa cavalerie, ne peint ni la situation, ni les mouvements, ni l'action, encore moins ce qui en fit la décision et la fin. Et ses louanges générales et universelles, qui ne louent personne en ne marquant rien de particulier de personne, données aux besoins qu'il se sentait de tous, n'en peuvent flatter aucun. Ses mémoires ont la même confusion, et s'ils sont plus de détails, c'est pour faire plus de mensonges, dont il se donne sans cesse pour le héros. J'étais bien jeune et seulement maître de camp d'un régiment de cavalerie en 1694 et les suivantes. Mais à la première, j'étais gendre du général de l'armée et les autres, dans la plus intime confiance, du maréchal de Choiseul qui succéda à mon beau-père. C'en est assez pour avoir très distinctement vu que l'éventrée de ses mémoires sur ces campagnes-là n'ont pas seulement la moindre apparence et que tout ce qui dit de lui est un roman. J'ai su des officiers principaux qui ont servi avec lui et sous lui dans les autres campagnes qu'il raconte que tout y est mensonge, la plupart entièrement controuvé ou avec un fondement dont tout le reste est ajusté à ses louanges et au blâme de ceux qui y ont le plus mérité pour leur dérober le mérite et se l'approprier. Il s'y trouve même des traits dont la hardiesse pue tellement la fausseté qu'on est indigné de l'audace pour soi-même et que le héros prétendu ait osé espérer de se faire si grossièrement des dupes et des admirateurs. La soif d'en avoir l'a rendu coupable des plus noirs larcins de la gloire des maîtres devant lui que je l'ai vu ramper et des calomnies les plus audacieuses et les plus follement hasardées. À l'égard de ses négociations en Bavière et à Vienne, qu'il y décrit avec de si belles couleurs, j'en ai demandé des nouvelles à M. de Torcy, à qui lors il rendait compte, et sur les ordres et les instructions duquel il avait uniquement à se régler. Torcy m'a protesté qu'il en avait admiré le roman, que tout y était mensonge, et qu'aucun fait, aucun mot n'en est véritable. Il était alors ministre et secrétaire d'État des Affaires étrangères, par qui elle passait toute, et le seul qui se fût préservé de partager, ou plutôt de soumettre son département à Madame de Maintenon. Sa droiture, sa probité, sa vérité n'ont jamais été douteuses en France ni dans les pays étrangers, et sa mémoire toujours exacte et nette. Telle a été la vanité de Villars d'avoir voulu être un héros en tout genre dans la postérité aux dépens des mensonges et des calomnies qui font le tissu du roman de ses mémoires et la folie de ceux qui se sont hâtés de les donner avant la mort des témoins des choses et des spectateurs d'un homme si merveilleux qui, avec tout son art, son bonheur sans exemple, les plus grandes dignités et les premières places de l'État, n'y a jamais été qu'un comédien de campagne et, plus ordinairement encore, qu'un bateleur monté sur ses tréteaux. Tel fut en gros Villars à qui ses succès de guerre et de cour acquerront dans la suite un grand nom dans l'histoire quand le temps l'aura fait perdre de vue lui-même et que l'oubli aura effacé ce qui n'est guère connu qu'aux contemporains. Il se retrouvera si souvent dans la suite de ses mémoires qu'il y aura lieu de l'y reconnaître aux divers traits de ce portrait, plus fidèle que la gloire qu'il a dérobée et qu'à l'exemple du roi il a transmis la postérité, non par des médailles et des statues, il était trop avare, mais par des tableaux dont il a tapissé sa maison, et il n'a pas même oublié les choses les plus simples et jusqu'à sa séance tenant les états de Languedoc, lesquels il a commandés dans cette province. Je ne dis rien du ridicule extrême de ses jalousies et des voyages de sa femme traînés sur les frontières. Il faut voiler ses misères, mais il est triste qu'elles influent sur l'État et sur les plus importantes opérations de la guerre, comme la Bavière ne le lui reprochera à jamais. Parmi tant et de tels défauts, il ne serait pas juste de lui nier des parties. Il en avait de capitaine. Ce projet était hardi, vaste, presque toujours bon, et nul autre plus propre à l'exécution et aux divers maniements des troupes, de loin pour cacher son dessein et de les faire arriver juste de près pour se poster et attaquer. Le coup d'œil, quoique bon, n'avait pas toujours une égale justesse, et dans l'action la tête était nette, mais sujette à trop d'ardeur et par là même à s'embarrasser. L'inconvénient de ses ordres était extrême, presque jamais par écrit et toujours vagues, généraux, et sous prétexte d'estime et de confiance, avec des propos empoulés, se réservant toujours les moyens de s'attribuer tout le succès ou de jeter les mauvais sur les exécuteurs. Depuis qu'il fut arrivé à la tête des armées, son audace ne fut plus qu'en parole, toujours le même en valeur personnelle, mais tout différent en courage d'esprit. Étant particulier, rien de trop chaud pour briller et pour percer, ses projets étaient quelquefois plus pour soi que pour la chose et par la même suspect, ce qui ne fut pas depuis pour ceux dont il devait être chargé de l'exécution, qui n'étaient pas fâchés de rendre douteuses aux autres quand c'était sur eux qu'elle devait rouler. À Frithlingen, il y allait de tout pour lui. Peu à perdre ou même indifféré, si le succès ne répondait pas à son audace dans une exécution refusée par Catinat, le bâton à espérer s'il réussissait. mais quand il l'eut obtenu, le matamore fut plus réservé dans la crainte des revers de fortune, laquelle il se promettait de pousser au plus haut, et il lui a été reproché depuis plus d'une fois d'avoir manqué des occasions uniques, sûres et qui se présentaient d'elles-mêmes. Il se sentait alors d'autres ressources, parvenu au suprême honneur militaire, il craignait d'en abuser à son malheur. Il envoyait des exemples, il voulut conserver la verdeur des lauriers qu'il avait dérobés par la main de la fortune, et se réservait ainsi l'opinion de faire la ressource des malheurs ou des fautes des autres généraux. Les intrigues ne lui étaient pas inconnues, il savait prendre le roi par l'adoration, et se conserver Madame de Maintenon par un abandon à ses volontés sans réserve et sans répugnance. Il sut se servir du cabinet dont elle lui avait ouvert la porte, il y ménagea les valets les plus accrédités. Hardiesse auprès du roi, souplesse et bassesse avec cet intérieur, adresse avec les ministres, et portée par Chamillard, dévouée à Madame de Maintenon, cette conduite suivie en présence et suppliée par lettre, il se la crut plus utile que les hasards des événements de la guerre, comme aussi plus sûrs. Il osa dès lors prétendre aux plus grands honneurs, où les souterrains conduisent mieux que tout autre chemin, quand on est arrivé à persuader les distributeurs quand on est susceptible. Je ne puis mieux finir ce long portrait, où je crois pourtant n'avoir rien dit d'inutile, et dans lequel j'ai scrupuleusement respecté le joug de la vérité, je ne puis, dis-je, l'achever mieux que par cet apophtègme de la mère de Villars, qui, dans l'éclat de sa nouvelle fortune, lui disait toujours « Mon fils, parlez toujours de vous au roi et n'en parlez jamais à d'autres ». Il profita utilement de la première partie de cette grande leçon, mais non pas de l'autre, et il ne cessa jamais d'étourdir et de fatiguer tout le monde de soi. La princesse d'Harcourt. Cette princesse d'Harcourt fut une sorte de personnage qu'il est bon de faire connaître, pour faire connaître plus particulièrement une cour qui ne laissait pas d'en avoir de pareille. Elle avait été fort belle et galante, quoiqu'elle ne fût pas vieille, les grâces et la beauté s'étaient tournées en gratte-cul. C'était alors une grande et grosse créature, fort allante, couleur de soupe au lait, avec de grosses et vilaines lippes et des cheveux de filasse, toujours sortants et traînants, comme tout son habillement sale, malpropre. Toujours intrigant, prétendant, entreprenant, toujours querellant et toujours basse comme l'herbe, ou sous l'arc-en-ciel, selon ceux à qui elle avait affaire. C'était une furie blonde, et de plus une harpie. Elle en avait l'effronterie, la méchanceté, la fourbe et la violence. Elle en avait l'avarice et l'avidité. Elle en avait encore la gourmandise et la promptitude à s'en soulager, et mettait au désespoir ceux chez qui elle allait dîner, parce qu'elle ne faisait jamais faute de ses commodités au sortir de table, qu'assez souvent elle n'avait pas loisir de gagner, et salissait le chemin d'une effroyable traînée qui l'ont maintes fois fait donner au diable par les gens de Madame Dumaine et de Monsieur Legrand. Elle ne s'en embarrassait pas le moins du monde, troussait ses jupes et allait son chemin, puis revenait disant qu'elle s'était trouvée mal, on y était accoutumé. Elle faisait des affaires à toute main et courait autant pour 100 francs que pour 100 000. Les contrôleurs généraux ne s'en défaisaient pas aisément, et tant qu'elle pouvait, trompait les gens d'affaires pour en tirer avantage. Sa hardiesse à voler au jeu était inconcevable, et cela ouvertement. On l'y surprenait, elle chantait pouille et empochait. Et comme il n'en était jamais autre chose, on la regardait comme une harangère avec qui on ne voulait pas se commettre, et cela en plein salon de Marly, au lansquenet, en présence de Monseigneur et Madame la Duchesse de Bourgogne. À d'autres jeux, comme l'ombre, etc., on l'évitait. Mais cela ne se pouvait pas toujours, et comme elle y volait aussi tant qu'elle pouvait, elle ne manquait jamais de dire, à la fin des parties, qu'elle donnait ce qui pouvait n'avoir pas été de bon jeu, et demandait aussi qu'on le lui donnât, et s'en assurait sans qu'on lui répondît. C'était qu'elle était grande dévote de profession et comptait ainsi mettre sa conscience en sûreté parce que, ajoutait-elle, dans le jeu, il y a toujours quelques méprises. Elle allait à toutes les dévotions et communiait incessamment, fort ordinairement, après avoir joué jusqu'à 4 heures du matin. Un jour de grande fête à Fontainebleau, que M. le maréchal de Villeroy était en quartier, elle alla voir la maréchale de Villeroy entre vêpres et salut. De malice, la maréchale lui proposa de jouer pour lui faire manquer le salut. L'autre s'en défendit et dit enfin que Madame de Maintenon y devait aller. La maréchale insiste et dit que cela était plaisant, comme si Madame de Maintenon pouvait voir et remarquer tout ce qui serait ou ne serait pas à la chapelle. Les voilà au jeu. Au sortir du salut, Madame de Maintenon, qui presque jamais n'allait nulle part, s'avise d'aller voir la maréchale de Villeroy, devant l'appartement de qui elle passait au pied de son degré. On ouvre la porte et on l'annonce. Voilà un coup de foudre pour la princesse d'Harcourt. « Ah, je suis perdue !» s'écria-t-elle de toute sa force, car elle ne pouvait se retenir. « Elle va me voir jouant au lieu d'être au salut !» Laisse tomber ses cartes et soi-même dans son fauteuil tout éperdu. La maréchale riait de tout son cœur d'une aventure si complète. Madame de Maintenon entre lentement et les trouve en cet état avec 5 ou 6 personnes. La maréchale de Villeroy, qui avait infiniment d'esprit, lui dit qu'avec l'honneur qu'elle lui faisait, elle causait un grand désordre et lui montre la princesse d'Harcourt en désarroi. Madame de Maintenon sourit avec une majestueuse bonté et s'adressant à la princesse d'Harcourt, « Est-ce comme ça, lui dit-elle, madame, que vous allez au salut aujourd'hui ?» Là-dessous, la princesse d'Harcourt sort en furie de son espèce de pamoison et dit que voilà des tours qu'on lui fait, qu'apparemment madame la maréchale de Villeroy se doutait bien de la visite de madame de Maintenon et que c'est pour cela qu'elle a persécuté de jouer pour lui faire manquer le salut. « Persécuté ?» répondit la maréchale. « J'ai cru de devoir mieux vous recevoir qu'en vous proposant un jeu. Il est vrai que vous avez été à ce moment en peine de n'être point vu au salut, mais le goût l'a emporté. Voilà, madame, s'adressant à madame de Maintenon, voilà tout mon crime. » Et de rire tous plus fort qu'auparavant. Madame de Maintenon, pour faire cesser la querelle, voulut qu'elle continuasse de jouer. La princesse d'Harcourt, grommelant toujours et toujours éperdue, ne savait ce qu'elle faisait et la furie redoublait de ses fautes. Enfin, ce fut une farce qui divertit toute la cour plusieurs jours, car cette belle princesse était également crainte, haïe et méprisée. Monseigneur et Madame la Duchesse de Bourgogne lui faisaient des espiègleries continuelles. Ils firent mettre un jour des pétards tout au long de l'allée qui, du château de Marly, va à la perspective où elle logeait. Elle craignait horriblement tout. On attira 2 porteurs pour se présenter à la portée lorsqu'elle voulut s'en aller. Comme elle fut vers le milieu de l'allée et tout le salon à la porte pour voir le spectacle, les pétards commencèrent à jouer. Elle a crié miséricorde et les porteurs à mettre à terre et à s'enfuir. Elle se débattait dans cette chaise de rage à la renverser et criait comme un démon. La compagnie accourut pour s'en donner le plaisir de plus près et l'entendre chanter pouille à tout ce qui s'en approchait, à commencer par Monseigneur et Madame la Duchesse de Bourgogne. Une autre fois, ce prince lui accommoda un pétard sous son siège dans le salon où elle jouait au piquet. Comme il allait y mettre le feu, quelqu'un me charitable l'avisa que ce pétard l'estropirait et l'empêcha. Quelquefois, il faisait entrer une 20aine de Suisses avec des tambours dans sa chambre qui l'éveillaient dans son premier somme avec ce tintamarre. Une autre fois, et ces scènes étaient toujours à Marly, on attendit fort tard qu'elle fût couchée et endormie. Elle logeait ce voyage-là dans le château, assez près du capitaine des gardes en quartier, qui était alors monsieur le maréchal de Lorge. Il avait fort neigé et il gelait. Madame la duchesse de Bourgogne et sa suite prirent de la neige sur la terrasse, qui est autour du haut du salon et de plain-pied à ses logements hauts, et pour s'en mieux fournir, éveillèrent les gens du maréchal, qui ne les laissèrent pas manquer de pelotes. Puis, avec un passe-partout et des bougies, se glisse doucement dans la chambre de la princesse d'Harcourt et, tirant tout à coup les rideaux, l'accable de pelotes de neige. Cette sale créature au lit, éveillée en sursaut, froissée et noyée de neige sur les oreilles et partout, échevelée, criant à pleine tête et remuant comme une anguille sans savoir où se fourrer, fut un spectacle qui les divertit plus d'une demi-heure, en sorte que la nymphe nageait dans son lit, d'où l'eau découlant de partout noyait toute la chambre. Il avait de quoi la faire crever. Le lendemain, elle bouda. On s'en moqua encore mieux. Ces bouderies lui arrivaient quelquefois, ou quand les pièces étaient trop fortes, ou quand M. de Grand l'avait malmenée. Il trouvait avec raison qu'une personne qui portait le nom de Lorraine ne se devait pas mettre sur ce pied de bouffonne, et comme il était brutal, il disait quelquefois en pleine table les dernières horreurs, et la princesse d'Harcourt se mettait à pleurer, puis rageait et boudait. Madame la duchesse de Bourgogne faisait alors semblant de bouder aussi, et s'en divertissait. L'autre n'y tenait pas longtemps. Elle venait ramper aux reproches qu'elle n'avait plus de bonté qu'elle et en venait jusqu'à pleurer, demander pardon d'avoir boudé et prier qu'on ne cessât plus de s'amuser avec elle. Lorsqu'on l'avait bien fait craqueter, Madame la Duchesse de Bourgogne se laissait toucher. C'était pour lui faire pique auparavant. Tout était bon de Madame la Duchesse de Bourgogne auprès du roi et de Madame de Maintenon et la princesse d'Harcourt n'avait point de ressources. Elle n'osait même se prendre à aucune de celles qui aidaient à la tourmenter. Mais d'ailleurs, il n'eût pas fait bon la fâcher. Elle payait mal ou point ses gens, qui, un beau jour de concert, l'arrêtèrent sur le pont neuf. Le cocher descendit, et les laquais, qui lui vinrent dire des mots nouveaux à sa portière. Son écuyer, sa femme de chambre l'ouvrirent, et tous ensemble s'en allèrent, et la laissèrent devenir ce qu'elle pourrait. Elle se mit à haranguer ce qui était amassé là de canailles, et fut trop heureuse de trouver un cocher de louage, qui monta sur son siège et l'amena chez elle. Une autre fois, Madame de Saint-Simon, revenant dans sa chaise de la messe au Récollet à Versailles, rencontra la princesse d'Harcourt à pied dans la rue, seule, en grand habit, tenant sa queue dans ses bras. Madame de Saint-Simon arrêta, lui offrit secours, c'était que tous ses gens l'avaient abandonnée et lui avaient fait le second tome du Pont-Neuf, et pendant leur désertion dans la rue, ceux qui étaient restés chez elle s'en étaient allés. Elle les battait, était forte et violente, et changeait de domestique tous les jours. Elle prit en outre une femme de chambre, forte et robuste, à qui, dès la première journée, elle distribua force tapes et soufflets. La femme de chambre ne dit mot, et comme il ne lui était rien dû, n'étant entrée que depuis 5 ou 6 jours, elle donna le mot aux autres, de qui elle avait su l'air de la maison, et un matin qu'elle était seule dans la chambre de la princesse d'Harcourt, et qu'elle avait envoyé son paquet dehors, elle ferme la porte en dedans, sans qu'elle s'en aperçût, répond à se faire battre comme elle avait déjà été, et au premier soufflet, saute sur la princesse d'Harcourt, lui donne 100 soufflets et autant de coups de poing et de pied, la terrasse, la meurtrit depuis les pieds jusqu'à la tête, et quand elle l'a bien battue à son aise et à son plaisir, la laisse à terre toute déchirée et toute échevelée, hurlant à pleine tête, ouvre la porte, la ferme dehors à double tour, gagne le degré et sort de la maison. C'était tous les jours des combats et des aventures nouvelles. Ses voisines à Marly disaient qu'elle ne pouvait dormir au tapage toutes les nuits, et je me souviens qu'après une de ces scènes, tout le monde allait voir la chambre de la duchesse de Villeroy et celle de Madame d'Épinois qui avait mis leur lit tout au milieu et qui se contait leur veille à tout le monde. Telle était cette favorite de Madame de Maintenon, si insolente et si insupportable à tout le monde, et qui avec cela, pour ce qui la regardait, avait toute faveur et préférence, et qui, en affaire de finances et en fils de famille et en autres gens qu'elle a ruinés, avait gagné des trésors et se faisait craindre à la cour et ménagée par les princesses et les ministres. L'affaire de la quête. Ce n'était pas peu à mon âge, et doublement avec le roi, de l'aller attaquer de conversation. Je n'avais pas coutume de rien faire sans l'avis du duc de Beauvilliers. Madame de Saint-Simon n'en fut pas que je la prisse, sûre, se me dit-elle, qu'il me conseillerait d'écrire et point de parler, ce qui n'aurait ni la même grâce ni la même force, outre qu'une lettre ne répond point, et que cet avis, contraire à ceux des deux autres ministres, me jetterait dans l'embarras. Je la crus et allai attendre que le roi passât de son dîner dans son cabinet, où je lui demandai permission de le suivre. Sans me répondre, il me fit signe d'entrer et s'en alla dans l'embrasure de la fenêtre. Comme j'allais parler, je vis passer Fagon et d'autres gens intérieurs. Je ne dis mot que lorsque je fus seul avec le roi. Alors je lui dis qu'il m'était revenu, qu'il était mécontent de moi sur la quête, que j'avais un si grand désir de lui plaire que je ne pouvais différer de le supplier de me permettre de lui rendre compte de ma conduite là-dessus. À cet exhorte, il prit un air sévère et ne répondit pas un mot. « Il est vrai, sire, continuai-je, que depuis que les princesses ont refusé de quêter, je l'ai évité pour Madame de Saint-Simon. J'ai désiré que les duchesses l'évitassent aussi, et qu'il y en a que j'ai empêché parce que je n'ai point cru que votre majesté le désira. » Mais, interrompit le roi d'un ton de maître fâché, « refuser la duchesse de Bourgogne, c'est lui manquer de respect, c'est me refuser moi-même. » Je répondis que, de la manière que les quêteuses se nommaient, nous ne pensions point que Madame la duchesse de Bourgogne y eût de part, que c'était la duchesse de Lude, souvent la première dame du palais qui s'y trouvait, qui indiquait qui elle voulait. « Mais, monsieur, interrompit le roi encore et du même ton haut et fâché, vous avez tenu des discours ?»« Non, sire, lui dis-je, aucun. Quoi, vous n'avez point parlé ?» Et de ce ton élevé, poursuivait, lorsqu'en cet endroit, j'osais l'interrompre aussi, en élevant ma voix au-dessus de la sienne. « Non, sire, vous dis-je, et si j'en avais tenu, je l'avouerai à votre majesté tout de même que je lui avoue que j'ai évité la quête à ma femme et que j'ai toujours empêché d'autres duchesses de l'accepter. J'ai toujours cru, et au lieu de croire que, puisque votre majesté ne s'expliquait point là-dessus, qu'elle ignorait ce qui se passait ou que, le sachant, elle ne s'en souciait point. Je vous supplie très instamment de nous faire la justice, d'être persuadé que si les ducs et moi en particulier eussions pu penser que votre majesté le désira le moins du monde, tout ce serait empressé de le faire et et Madame de Saint-Simon à toutes les fêtes. Et cela n'eût pas suffi de sa part à vous témoigner mon désir de vous plaire, j'aurais, moi aussi, plutôt quêté dans un plat comme un marguillier de visage. Mais, sire, continuai-je, votre majesté peut-elle imaginer que nous tenions aucune fonction au-dessous de nous en sa présence, et une encore que les duchesses et les princesses font tous les jours, encore dans les paroisses et dans les couvents de Paris, et sans aucune difficulté? Mais il est vrai, sire, que les princes sont si attentifs à se former des avantages de toutes choses qu'ils nous obligent à y prendre garde, surtout ayant refusé la quête une fois. Mais ils ne l'ont pas refusé, me dit le roi d'un ton plus radouci. On ne leur a point dit de quêter. Ils l'ont refusé, sire, repris-je fortement, non pas les Lorraines, mais les autres, par où je lui désignais Madame de Montbazon. La duchesse de Lude a pu en rendre compte à votre majesté, et l'a dû faire, et c'est ce qui nous a fait prendre notre parti. Mais comme nous savons combien votre majesté se trouve importunée de tout ce qui est discussion et décision, nous avons cru qu'il suffisait d'éviter la quête pour ne pas laisser prendre cet avantage au prince, persuadé, comme j'ai eu l'honneur de vous le dire, que votre majesté n'en savait rien ou ne s'en souciait point, puisqu'elle n'en témoignait aucune chose. « Oh bien, monsieur, me répondit le roi, d'un ton bas et tout à fait radouci, cela n'arrivera plus, car j'ai dit à monsieur le grand que je désirais que sa fille quêtât le premier jour de l'an, et j'ai été bien aise qu'elle en donna l'exemple par l'amitié que j'ai pour son père. » Je répliquai toujours regardant le roi fixement, que je le suppliais encore une fois, et pour moi et pour tous les ducs, de croire que personne ne lui avait été plus soumis que nous, ni plus persuadé, et moi plus que pas un, que nos dignités émanant de la sienne et nos personnes remplies de ses bienfaits, il était comme roi et comme bienfaiteur de nous tous, despotiquement, le maître de nos dignités, de les abaisser, de les élever, d'en faire comme d'une chose sienne et absolument dans sa main. Alors, prenant un ton tout à fait gracieux et tout à fait de bonté et de familiarité, il me dit à plusieurs reprises que c'était là comme il fallait penser et parler, qu'il était content de moi et des choses pareilles et honnêtes. J'en pris l'occasion de lui dire que je ne pouvais lui exprimer la douleur où j'étais de voir que, tandis que je ne songeais qu'à lui plaire, on ne cessait de me faire faire auprès de lui les desservices les plus noirs. Je lui avouai que je ne pouvais pardonner à ceux qui en étaient capables et que je n'en pouvais soupçonner que monsieur le grand, auquel, ajoutai-je, depuis l'affaire de la princesse d'Harcourt, ne me l'a pas pardonné, parce qu'ayant eu l'honneur de vous en rendre compte, votre majesté vit que je lui disais vrai et non pas monsieur le grand, dont je crois que votre majesté se souvient bien et que je ne lui répète point pour ne la point fatiguer. Le roi me répondit qu'il s'en souvenait bien et en eut, je crois, écouté la répétition patiemment, à la façon réfléchie, douce et honnête avec laquelle il me le dit. Mais je ne jugeais pas à propos de le tenir si longtemps. Je finis donc par le supplier que, lorsqu'il lui reviendrait quelque chose de moi qui ne lui plairait pas, il me fît la grâce de m'en faire avertir. Si sa majesté ne daignait pas me le dire elle-même et qu'il verrait que cette bonté serait incontinent suivie ou de ma justification ou de mon aveu et du pardon que je lui demanderais de ma faute. Il demeura un moment après que j'eus cessé de parler, comme attendant si j'avais plus rien à lui dire. Il me quitta ensuite avec une petite révérence très gracieuse en me disant que cela était bien et qu'il était content de moi. Je me retirai en lui faisant une profonde révérence, extrêmement soulagé et content d'avoir eu le loisir de tout ce que je lui avais placé sur moi, sur les ducs, sur les princes en particulier, sur le grand écuyer, et plus persuadé que devant par le souvenir du roi de l'affaire de la princesse d'Harcourt et son silence sur monsieur le grand, que c'était à lui que je devais ce que je venais encore une fois de confondre. Sortant du cabinet de roi, l'air très satisfait, je trouvai monsieur le duc et quelques courtisans distingués qui attendaient son beauté dans sa chambre, qui me regardèrent fort passés dans la surprise de la durée de mon audience qui avait été de 30 minutes, chose très rare au particulier, chargée de rien que d'en obtenir, et dont aucune n'allait à la moitié du temps de celle que j'avais eue. Je montai chez moi, tirai Madame de Saint-Simon d'inquiétude, puis j'allai chez Chamillard, que je trouvai, sortant de table, au milieu de sa nombreuse audience, où était la princesse d'Harcourt. Dès qu'il me vit, il quitta tout et vint à moi. Je lui dis à l'oreille que je venais de parler au roi, longtemps dans son cabinet et en tête à tête, que j'étais fort content, mais que, comme cela avait été fort long, et qu'il était alors accablé de gens, je reviendrai le soir lui tout conter. Il voulut le savoir à l'heure même, parce que, devant, dit-il, travailler ce jour-là extraordinairement avec le roi, il voulait être bien instruit, certain qu'il était que le roi ne manquerait pas de lui en parler et qu'il voulait se mettre en état de me servir. Je lui contai alors toute mon audience, il me félicita d'avoir si bien parlé. Madame Chamignard et ses filles furent très surprises et me surent grand gré de ce que j'avais pris sur moi leur refus de la quête. Je les trouvais irrités des propos sur elles du grand écuyer et du comte de Marsan, son frère, pourtant leurs bons amis. J'attisais ce feu, mais j'eus beau faire. Les bassesses et souplesses des Lorrains auprès d'elles raccommodèrent tout, en sorte qu'au bout d'une quinzaine, il n'y parut plus, et Chamillard, aussi piqué qu'elle, n'y résista pas plus longtemps. Il m'apprit au retour de son travail qu'avant d'ouvrir son sac, le roi lui avait dit qu'il m'avait vu, conté toute la conversation, et parut tout à fait revenu sur moi, mais encore blessé contre les ducs, sans qu'il eût pu le ramener entièrement dans la prévention. Le faible pour M. Legrand et la préférence déclarée de sa main tenant pour les princes contre les ducs le tenaient obscurci contre l'évidence et contre son propre aveu même à Chamillard d'être content de moi, dont la conduite ne pouvait toutefois être séparée des autres par des choses mêmes que je lui avais dites. Mais c'était un prince très aisé à prévenir, qui donnait très rarement lieu à l'éclaircir, qui revenait encore plus rarement et jamais bien entièrement, et qui ne voyait, n'écoutait, ne raisonnait plus dès qu'on avait l'adresse de mettre son autorité le moins du monde en jeu sur quoi que ce pût être, devant laquelle justice, raison, droit, évidence, tout disparaissait. C'est par cet endroit si dangereusement sensible que ces ministres ont su manier avec tant d'art qu'ils se sont rendus les maîtres despotiques en lui faisant accroire tout ce qu'ils ont voulu et le rendant inaccessible aux éclaircissements et aux audiences. Le chancelier fut étonné de ma hardiesse et ravi du succès. Je me tirai d'affaire après avec le duc de Beauvilliers, comme Madame de Saint-Simon me l'avait conseillé, et je trouvai qu'elle avait eu raison. Je dis au duc que, n'ayant pas eu le moment de le voir avant le dîner du roi, j'avais pris mon parti de lui parler. Il me témoigna être fort aise que cette audience se fût si bien passée, mais qu'il m'aurait conseillé de l'éviter et d'écrire dans la situation où j'étais, quoique par l'événement j'eusse beaucoup mieux fait. Plusieurs ducs me parlèrent de cette affaire qui fit du bruit. Rien n'égala la surprise et la frayeur de M. de Chevreuse, avec qui j'étais intimement et à qui je comptais tout. Mais lorsqu'il entendit que j'avais dit au roi que nous savions qu'il craignait toute discussion et toute décision, il recula 6 pas. « Vous avez dit cela au roi » s'écria-t-il, « en ses propres termes, vous êtes bien hardi. » « Vous ne l'êtes guère, lui répondis-je, vous autres vieux seigneurs, qui êtes si bien et en familiarité avec lui, et bien faible de ne lui oser dire mot, car s'il m'écoute, moi, jeune homme, point accoutumé avec lui, mal d'ailleurs avec lui, et de nouveau encore plus par ceci, et si la conversation commençait avec colère finit après de tels propos par de la bonté et des honnêtetés, après qu'elle a duré tant que j'ai voulu, que serait-ce de vous autres, si vous aviez le courage de profiter de la manière dont vous êtes avec lui, et de lui dire ce qu'il lui faudrait dire, et que vous voyez que je lui dis non seulement impunément, mais avec succès pour moi. » Chevreuse fut ravi que j'eusse parlé de la sorte, mais il avait encore peur. La maréchale de Villeroy, extrêmement de mes amis, et qui avait infiniment d'esprit et beaucoup de dignité et de considération personnelle, trouva que j'avais très bien fait, et dit que cette conversation me tournerait à bien. En effet, je sus par M. de Lan que le roi avait dit à Monseigneur que je lui avais parlé avec beaucoup d'esprit, de force et de respect, qu'il était content de moi, que les choses étaient bien différentes de ce que M. le Grand lui avait dit, et que les princesses avaient refusé la quête, ce que Monseigneur lui confirma. Le mariage du duc de Mantoue. Dès avant de partir de chez lui, son choix était fait et arrêté. Soupant avec le duc de Lesdiguières, peu de temps avant sa mort, il avait vu à son doigt un petit portrait en bague qu'il le pria de lui montrer. Ayant eu la bague entre ses mains, il fut charmé du portrait et dit à M. de Lesdiguières qu'il le trouvait bien heureux d'avoir une si belle maîtresse. Le duc de Lesdiguières se mit alors à rire et lui apprit que ce portrait était celui de sa femme. Dès qu'il fut mort, le duc de Mantoue ne cessa de songer à cette jeune veuve. Sa naissance et ses alliances étaient fort convenables. Il s'en informa encore secrètement et il partit dans la résolution de faire ce mariage. En vain lui fit-on voir Mademoiselle Delbeuf, comme par hasard, dans les églises et en promenade. Sa beauté, qui en aurait touché beaucoup d'autres, ne lui fit aucune impression. Il cherchait partout la duchesse de Lesdiguières et ne la rencontrait nulle part parce qu'elle était dans sa première année de veuve. Mais lui qui voulait finir s'en ouvrit à Torcy comme au ministre des Affaires étrangères. Il rendit compte au roi qui approuva fort ce dessein et qui chargea le maréchal de Duras d'en parler à sa fille. Elle en fut aussi affligée que surprise. Elle témoigna à son père sa répugnance à s'abandonner aux caprices et à la jalousie d'un vieil Italien débauché, l'odeur qu'elle concevait de se trouver seule entre ses mains en Italie et la crainte raisonnable de sa santé avec un homme très convaincu de ne l'avoir pas bonne. Je fus promptement averti de cette affaire. Elle et Madame de Saint-Simon vivaient ensemble moins en cousine germaine qu'en sœur. J'étais aussi fort en liaison avec elle. Je lui représentai ce qu'elle devait à sa maison, prête à tomber après un si grand éclat par la mort de mon beau-père, la conduite de mon beau-frère, l'âge si avancé de Monsieur du Duras et l'état de son seul frère, dont les deux nièces emportaient tous les biens. Je lui fis valoir le désir du roi, les raisons d'état qui l'y déterminaient, le plaisir d'ôter ce parti à Mademoiselle d'Elbeuf, en un mot, tout ce dont je pus m'aviser. Tout cela fut inutile, jamais je ne vis une telle fermeté. Pontchartrain, qui la vint raisonner, y échoua comme moi, mais il fit pis, car il l'irrita par des menaces qu'il y mêla que le roi le lui saurait bien faire faire. Monsieur le prince se joignit à nos désirs, n'ayant plus aucune espérance pour lui-même, et qui surtout craignait le mariage d'une Lorraine. Il fut trouver Monsieur de Duras, le pria d'imposer à Madame de Lesdiguières, lui dit et le répétait au roi qu'il en voulait faire la noce à Chantilly comme de sa propre fille, par sa propre parenté avec la maréchale de Duras, arrière-petite-fille comme lui du dernier connétable de Montmorency. Je ne me rebutais point, je m'adressais à tout ce que je crus qui pouvait quelque chose sur la duchesse de Lesdiguières, jusqu'aux filles de Sainte-Marie du faubourg Saint-Jacques, où elle avait été élevée et qu'elle aimait beaucoup. Je n'eus pas plus de succès. Cependant, M. de Mantoue, irrité par la difficulté de voir la duchesse de Lesdiguières, se résolut de l'aller attendre un dimanche aux Minimes. Il la trouva enfermée dans une chapelle. Il s'approcha de la porte pour l'en voir sortir. Il en eut peu de contentement. Ses coiffes épaisses de crêpe étaient baissées. À peine put-il l'entrevoir. Résolu d'en venir à bout, il en parla à Torcy et lui témoigna que la complaisance de se laisser voir dans une église ne devait pas être si difficile à obtenir. Torcy en parla au roi, qui lui ordonna de voir Madame de Lesdiguières, de lui parler de sa part du mariage comme d'une affaire qui lui convenait et qu'il désirait, mais pourtant sans s'y mêler d'autorité, et lui expliquer la complaisance que le duc de Mantoue désirait d'elle, et lui faire entendre qu'il souhaitait qu'elle la lui accordât. Torcy fut donc à l'hôtel de Duras lui exposer sa mission. Sur le mariage, la réponse fut ferme, respectueuse, courte. Sur la complaisance, elle dit que, les choses ne devant pas aller plus loin, elle la trouvait fort inutile. Mais Torcy, insistant sur ce dernier point de la part du roi, il fallut bien qu'elle y consentît. M. de Mantoue la fut donc attendre au même lieu où il l'avait déjà vue une fois. Il trouve Madame de Lesdiguières déjà dans la chapelle. Il s'en approcha, comme l'autre fois. Elle avait pris Mademoiselle Lépinois avec elle. Prête à sortir, elle leva ses coiffes, passa lentement devant M. de Mantoue, lui fit une révérence en glissant pour lui rendre la sienne, et, comme ne sachant pas qui il était, gagna son carrosse. M. de Mantoue en fut charmé. Il redoubla d'insistance auprès du roi et de M. de Duras. L'affaire se traita en plein conseil, comme une affaire d'État, et en effet, c'en était une. Il fut résolu d'amuser M. de Mantoue et cependant de tout faire pour vaincre cette résistance, excepté la force de l'autorité, que le roi voulut bien ne pas employer. Tout fut promis à Madame de Lesdiguières de la part du roi, que ce serait sa majesté qui stipulerait dans le contrat de mariage, qui donnerait une dot et la lui assurerait, ainsi que son retour en France si elle devenait veuve, sa protection dans le cours du mariage. En un mot, elle fut tentée de toutes les façons les plus honnêtes, les plus honorables pour la résoudre. Sa mère, amie de Madame de Creil, si connue pour sa beauté et sa vertu, emprunta sa maison pour une après-dînée, pour que nous puissions parler plus de suite et plus à notre aise à Madame de Lesdiguières qu'à l'hôtel de Duras. Nous y gagnâmes un torrent de larmes. Peu de jours après, je fus bien étonné que Chamillard me raconta tout ce qui s'était dit de plus particulier là-dessus entre la duchesse de Lesdiguières et moi, et encore entre elle et Pontchartrain là-dessus. Je sus bientôt après que, craignant enfin que ces refus ne lui attirassent quelque chose de fâcheux de la part du roi, ou ne fussent enfin forcés par son autorité absolue, elle s'était ouverte à ce ministre, à notre insu de tous, pour faire par son moyen que le roi trouva bon qu'il ne fût plus parlé de ce mariage auquel elle ne pouvait se résoudre, que M. de Mantoue en fût si bien averti qu'il tourna ses pensées ailleurs, qu'elle fût enfin délivrée d'une poursuite qui lui était devenue une persécution très fâcheuse. Shamgar la servit si bien que dès lors tout fut fini à cet égard et que le roi, flatté peut-être de la préférence que cette jeune duchesse donnait à demeurer sa sujette sur l'état de souveraine, fit son éloge le soir dans son cabinet à sa famille et aux princesses, par laquelle cela se répandit dans le monde. Monsieur de Duras se souciait très peu de tout pour contraindre sa fille, et la maréchale de Duras, qui l'aurait voulu, n'en eut pas la force. Le duc de Mantoue, informé enfin par Torcy du regret du roi de n'avoir pu vaincre la résolution de la duchesse de Lesdiguières de ne point se remarier, car ce fut ainsi qu'on donna la cause, cessa d'espérer et résolut de se pourvoir ailleurs. Il faut achever cette affaire tout de suite. Les Lorrains, qui avaient suivi de toute leur plus curieuse attention la poursuite du mariage avec la duchesse de Lesdiguières, reprirent leurs espérances, le voyant rompu, et leurs errements. Monsieur le prince, qui les suivait de près, parla, cria, excita le roi, qui se porta jusque-là de faire dire à Madame Delbeuf, de sa part, que ses poursuites lui déplaisaient. Rien ne les arrêta. Ils comprirent que le roi n'en viendrait pas jusqu'à des défenses extrêmes, et, sûrs par l'expérience de n'en être que mieux après à force de flatterie et de souplesse, ils poussèrent leur pointe avec roideur. Un certain Cassado, qui se faisait depuis appeler Monsieur de Monteleone, créature de Monsieur de Vaudémont et Milanais, avait obtenu pour lui l'emploi d'envoyer d'Espagne à Gênes, puis auprès de Monsieur de Mantoue, dont il gagna les bonnes grâces et qu'il accompagna à Paris. C'était un compagnon de beaucoup d'esprit, d'adresse, d'insinuation et d'intrigue, hardi avec cela et entreprenant, qu'on verra dans la suite devenir ambassadeur d'Espagne en Hollande et en Angleterre, et y bien faire ses affaires et pas mal celles de la cour. Il eut pour adjoint, pour marier M. de Mantoue au gré de M. de Vaudémont, un autre italien subalterne, Théatin Régnier, connu autrefois à Paris dans les tripots sous le nom de Primi, et qui avait depuis pris le nom de Saint-Maiol, homme à tout faire avec de l'esprit et de l'argent dont il fut répandu quantité dans la maison. Avec ces mesures et le congé donné par Madame de Lesdiguières, ils vainquirent la répugnance de M. de Mantoue, qui au fond ne pouvait être que caprice par la beauté, la taille et la naissance de Mlle Delbeuf. Mais la sienne ne laissa pas de les embarrasser. Avec un rang et du bien, initiée à tout à la cour et avec une réputation entière, elle ne se voulait point marier ou se marier à son gré, et disait toutes les mêmes raisons qu'avait alléguées Madame de Lesdiguières pour ne point épouser M. de Mantoue. Elle avait subjugué sa mère, qui trouvait même son joug pesant, mais qui n'avait garde de s'en vanter. Elle avait donc grande envie de s'en défaire. Elle l'atteint à Paris pour l'éloigner de sa cour, de ses plaisirs, de ses semonces. Elle fit un présent considérable à une bâtarde de son mari, qui avait tout l'esprit du monde et toute la confiance de sa fille, et lui fit envisager une fortune en Italie. Toute la maison de Lorraine se mit auprès Mademoiselle Delbeuf, Mademoiselle de Lillebonne surtout, et Madame d'Épinois, qui vainquirent enfin sa résistance. Quand ils en furent venus à ce point, la souplesse auprès du roi vint au secours de l'audace d'un mariage conclu contre sa volonté qu'il leur avait déclarée. Ils firent valoir la répugnance invincible du duc de Mantoue pour Mademoiselle d'Enghien, celle de la duchesse de Lesdiguières pour lui, qui n'avait pu être surmontée, et la spécieuse raison de ne pas forcer un souverain, son allié, et actuellement dans Paris, sur le choix d'une épouse, lors surtout qu'il la voulait prendre parmi ses sujettes. Car les Lorrains savent très impudemment disputer ou très accortement avouer, selon leur convenance occasionnelle, la qualité de sujet du roi. Sa Majesté fut donc gagnée, avec cet ascendant de M. le Grand sur lui, à laisser faire sans rien défendre et aussi sans s'en mêler. M. le Prince obtint que le mariage ne se ferait pas en France et il fut convenu que, le mariage signé entre les parties, elles s'en iraient chacun de leur côté le célébrer à Mantoue. M. de Mantoue, qui, en 6 ou 7 mois qu'il fut à Paris, ne vit le roi que 5 ou 6 fois, incognito en son cabinet, reçut du roi, la dernière fois qu'il vit à Versailles, une belle épée de diamant que le roi avait exprès mise à son côté et qu'il en tira pour la lui donner et lui mettre, lui dit-il, les armes à la main comme au généralissime de ses armées en Italie. Il en avait eu le titre, en effet, depuis la rupture avec M. de Savoie, mais pour en avoir le nom et les honneurs sans l'autorité dont il était incapable et sans l'exercice dont il aurait trop appréhendé le péril. Il voulut encore aller prendre congé du roi à Marly et lui demanda permission de le saluer encore en passant à Fontainebleau, s'en allant à cheval avec sa suite en Italie. Il arriva à Fontainebleau le 19 septembre et coucha à la ville chez son envoyé. Le 20, il dîna chez M. Legrand, vit le roi dans son cabinet et choupa chez Torcy. Le 21, il vit encore le roi un moment, dîna chez Chamillard et s'en alla, toujours à cheval, coucher à Nemours et tout de suite en Italie. En même temps, M. et Mme Delbeuf, avec Mme de Pompadour, sœur de Mme Delbeuf, passèrent à Fontainebleau sans voir personne, suivant leur proie, jusqu'où leur chemin fourchait pour aller, lui par terre, elle par mer, de peur que le marieur ne changeât d'avis et leur fît un affront. C'était pour des personnes de ce rang un étrange personnage que de suivre elles-mêmes leur homme de si près. En chemin, la frayeur leur redoubla. Arrivées à Nevers dans une hôtellerie, elles jugèrent qu'il ne fallait pas se commettre plus avant sans de plus efficaces sûretés. Elles y séjournaient un jour. Ce même jour, ils y reçurent la visite de M. de Mantoue, Mme de Pompadour, qui, tant qu'elle l'avait pu, avec son art et ses minauderies, s'était insinuée auprès de lui dans le dessein d'en tirer tout ce qu'elle pourrait, lui proposa de ne différer pas à se rendre heureux par la célébration de son mariage. Il s'en défendit tant qu'il put. Pendant cette indécente dispute, elles envoyèrent demander permission à l'évêque. Il se mourait. Le grand vicaire à qui on s'adressa la refusa. Il dit qu'il n'était pas informé de la volonté du roi, et qu'un mariage ainsi célébré ne le serait pas avec la dignité requise entre de telles personnes, que de plus il se trouverait dépouillé des formalités indispensablement nécessaires pour le mettre à couvert de toute contestation d'invalidité. Une si judicieuse réponse fâcha fort les dames sans leur faire changer de dessein. Elles pressèrent M. de Mantoue, lui représentèrent que ce mariage n'était pas de ceux où il y avait des oppositions à craindre, le rassurèrent sur ce que, se faisant ainsi dans l'hôtellerie d'une ville de province, le respect au roi se trouverait suffisamment gardé, le piquèrent sur son état de souverain, qu'il affranchissait des lois et des règles ordinaires, enfin le poussèrent tant qu'à force de l'importuner, elles y firent consentir. Ils avaient dîné. Aussitôt le consentement arraché, elles firent monter l'aumônier de son équipage, qui les maria dans le moment. Dès que cela fut fait, tout ce qui était dans la chambre sortit pour laisser les mariés en liberté de consommer le mariage, quoi que pût faire et dire M. de Mantoue pour les retenir, lequel voulait absolument éviter ce tête-à-tête. Madame de Pompadour se tint en dehors, sous le degré, à écouter près de la porte. Elle n'entendit qu'une conversation fort modeste et fort embarrassée, sans que les mariés s'approchassent l'un de l'autre. Elle demeura quelques instants de la sorte, puis jugeant enfin qu'il ne s'en pouvait espérer rien de mieux, et qu'à tout événement ce tête-à-tête serait susceptible de toutes les interprétations qu'on lui voudrait donner, elle céda enfin au cri que, de temps en temps, le duc de Mantoue faisait pour rappeler la compagnie, et qui demandait ce que voulait dire de s'en aller tous et de les laisser ainsi tous les deux. Madame de Pompadour appela sa sœur, elles rentrèrent. Aussitôt, le duc prit congé d'elle, et, quoiqu'il ne fût pas de bonheur, monta à cheval et ne le revit qu'en Italie, encore qu'ils fissent même route jusqu'à Lyon. La nouvelle de cette étrange célébration de mariage ne tarda guère à se répandre avec tout le ridicule dont elle était tissée. Le roi trouva très mauvais qu'on eût osé passer ses défenses. Les Lorrains, accoutumés de tout oser, puis de tout plâtrer, et à n'en être pas plus mal avec le roi, eurent la même issue de cette entreprise. Ils s'excusèrent sous la crainte d'un affront, et il pouvait être que M. de Mantoue, amené à leur point à force de ruse, d'artifice, de circonvention, n'eût pas mieux aimé que de gagner l'Italie pour se moquer d'eux. Ils aimèrent donc mieux encourir la honte qu'ils essuyèrent en courant et forçant M. de Mantoue que celle de son dédit, accoutumé comme ils sont à tant d'étranges façons de faire des mariages. De Lyon, Madame de Pompadour revint, pleine d'espérance de l'ordre pour son mari à la recommandation du duc de Mantoue, qui n'eut aucun succès. Madame Delbeuf et sa fille allèrent s'embarquer à Toulon sur deux galères du roi, par une mescolance rare d'avoir défendu à Madame Delbeuf de penser à ce mariage, ou l'équivalent de cela, de n'avoir voulu dans la suite ni le permettre, ni le défendre, ni s'en mêler, d'avoir défendu après qu'il se fit en France, et de prêter après deux de ses galères pour l'aller faire ou achever. Ces galères eurent rudement la chasse par des corsaires d'Afrique, ce fut grand dommage qu'elles ne fussent prises pour achever le roman. Débarqué enfin à Sauveté, M. de Vaudémont les joignit. Il persuada M. de Mantoue de réhabiliter son mariage par une célébration nouvelle qui rétablit tout le défectueux de celle de Nevers. Le prince l'avait lui-même trouvée si contrainte aux défenses précises que le roi leur avait faites de se marier en France, qu'il l'avait fait assurer par son envoyé qu'il n'en était rien et que ce n'était que des bruits faux et que ceux qui couraient de son mariage fait à Nevers. Cette raison le détermina donc à suivre le conseil de Vaudémont, l'évêque de Tortone, et les maria dans Tortone publiquement en présence de la duchesse d'Elbeuf et du prince et de la princesse de Vaudémont. Ce beau mariage, tant poursuivi par les Lorrains, tant fui par M. de Mantoue, fait avec tant d'incessance et refait après pour la sûreté de l'état de Mlle d'Elbeuf, n'eut pas de suite heureuse. Soit dépit de s'être laissé acculer à épouser malgré lui, soit caprice ou jalousie, il renferma tout aussitôt sa femme avec tant de sévérité qu'elle n'eut permission de voir qui que ce fût, excepté sa mère, encore pas plus d'une heure par jour et jamais seule pendant les 4 ou 5 mois qu'elle demeura avec eux. Ses femmes n'entraient chez elle que pour l'habiller et la déshabiller précisément. Il fit murer ses fenêtres fort haut et la fit garder à vue par de vieilles italiennes. Ce fut donc une cruelle prison. Ce traitement, auquel je ne m'attendais pas, et le peu de considération, pour ne pas dire le mépris, qu'on témoigna ici à ce prince toujours depuis son départ, me consolèrent beaucoup de l'invincible opiniâtreté de la duchesse de Lesdiguières. J'eus pourtant peine à croire que, prise de son choix, elle eût essuyé les mêmes duretés, ni lui, les traitements qu'il reçut, s'il n'eût pas fait un mariage auquel le roi se montra si contraire. 6 mois après, Madame d'Elbeuf, outrée de dépit, mais trop glorieuse pour le montrer, revint remplie à ce qu'elle affectait des grandeurs de son gendre et de sa fille, ravie pourtant au fond d'être défaite d'une charge devenue si pesante. Elle déguisa les malheurs de sa fille jusqu'à s'offenser qu'on dit et qu'on crut ce qui en était et ce qui en revenait par toutes les lettres de nos armées. Mais à la fin, Lorraine, d'alliance, non de naissance, le temps et la force de la vérité les lui fit avouer. Leur art, et qui montra bien tout l'art et l'ascendant des Lorrains, elle ne fut pas moins bien traitée après ce voyage que si elle n'eût rien fait que de la volonté du roi. Je me suis peut-être trop étendu sur cette affaire, mais il m'a paru qu'elle le méritait par sa singularité, et plus encore pour montrer, par des faits de cette sorte, qu'elle fut la cour du roi.